Le journal Loïc Barrière. En France, 4 millions d'euros débloqués pour sécuriser les lieux de culte alors que 1400 actes anti-religieux ont eu lieu l'an dernier. Entretien avec le député La République En Marche Ludovic Mendès, chargé d'une mission à ce sujet. À 3 mois de l'élection présidentielle, le président du CFCM, Mohamed Moussaoui, déplore des débats électoraux trop centrés sur l'islam et un racisme latent. Une grève très suivie ce jeudi dans l'éducation nationale. Les grévistes dénoncent la gestion de la crise sanitaire à l'école. Un haut responsable syrien condamné à la prison à vie en Allemagne lors du premier procès au monde lié aux exactions attribuées au régime de Bachar el-Assad. En Tunisie, Ennahda maintient son appel à manifester vendredi malgré l'interdiction de tout rassemblement décidée par le gouvernement pour limiter la circulation du Covid. Enfin, Laurence d'Arabie, c'est le titre d'une pièce de théâtre sur un épisode de l'histoire du Moyen-Orient, un spectacle présenté au théâtre 13e art à Paris. Entretien avec le metteur en scène Éric Bouvron. Gérald Darmanin annonce une enveloppe de 4 millions d'euros pour sécuriser les lieux de culte en France. Une somme qui servira notamment à financer la vidéoprotection. Une annonce que le ministre de l'Intérieur a faite devant l'église Saint-Germain-l'Auxerrois à Romainville, cible d'effraction et de vol dimanche soir. Une église à Bondy a également été visée. L'an dernier, 1400 actes anti-religieux ont été recensés en France. Entretien avec le député La République En Marche, Ludovic Mendès, chargé d'une mission à ce sujet.
Il y avait, après plusieurs échanges entre le président de la République et les instances religieuses en France, un besoin de pouvoir les accompagner dans des nouvelles formes d'agression. Agression parfois de certains représentants de ces cultes, agression de certains fidèles, ou alors aussi parfois la dégradation de lieux de culte, ou alors même la dégradation de carrés juifs ou musulmans dans les cimetières. Donc la profanation de ces cimetières est quelque chose que l'on connaît depuis très longtemps, malheureusement, mais ça s'est, aggravé ces derniers temps avec la volonté de viser certains culte par différentes personnes et pour différentes raisons d'ailleurs. Disons qu'il y a parfois une logique antisémite quand on s'attaque au culte juif, parfois plus racial et discriminatoire envers les musulmans et les lieux catholiques qui sont aussi très touchés en France parce que beaucoup plus représentatifs par rapport au nombre de lieux existants.
Vous nous dites que le type d'attaque, le type d'agression est différent selon le culte.
C'est un peu ce qu'on arrive à obtenir ces derniers temps avec les premières auditions que nous avons faites, avec les différentes lectures que l'on peut avoir aussi grâce à la presse. Donc tout ce qui est remonté aujourd'hui nous montre qu'on a différentes typologies d'agression. Il y a des profanations de cimetières qui parfois sont faites dans un cadre, de délinquance classique et de personnes qui commettent des méfaits sans volonté politique ou religieuse. Et parfois, c'est plutôt de la volonté politique avec une volonté plutôt antisémite ou alors anti-musulmane. Donc oui, ce ne sont pas les mêmes types d'agressions. Et quand on regarde au niveau des églises catholiques, on est plus dans une démarche de dégradation soit du patrimoine culturel, soit dans du vol par rapport à la richesse potentielle obtenue par la qualité des objets qu'on peut trouver dans ces lieux de culte.
1380 faits anti-religieux ont été enregistrés entre janvier et octobre dernier. C'est une baisse d'un peu plus de 17% par rapport à la même période en 2019. Mais parallèlement, les actes anti-musulmans sont, eux, en hausse. Et c'est bien entendu l'une de vos préoccupations.
Toutes les agressions sont nos préoccupations. Aujourd'hui, on doit répondre à tout le monde. On ne se focalise pas sur une seule religion, parce que toutes les religions sont concernées. D'ailleurs, je rappelle que la pagode bouddhiste de Paris a été attaquée aussi. Donc ça veut dire que tout le monde est concerné d'une façon ou d'une autre. Il y a une montée de la haine et de la violence dans notre pays qui touche toutes les religions. Donc oui, il y a, ces dernières années, une augmentation des agressions anti-musulmanes. Mais on a aussi, si on prend un rapport en termes de volume sur le nombre d'agressions et le nombre de lieux de culte, c'est beaucoup plus important, par exemple, pour les personnes de confession juive. Donc en fait, c'est chaque culte qui subit une agression ne la subit pas de la même façon, d'ailleurs ne la traite pas de la même manière non plus. Et à partir de là, nous, dans ce rapport, on doit pouvoir définir Déjà, ce que c'est qu'un acte antireligieux, parce que d'un point de vue juridique, c'est pas si simple que ça à définir. Et deuxièmement, d'expliquer à quel moment, pourquoi, par qui et comment ces différentes agressions, ces différentes destructions de lieux ou alors même de profanation de cimetières ont pu arriver. Donc en fait, l'objectif, c'est de faire d'abord, entre guillemets, un état des lieux, après d'être à l'écoute des différents cultes et de voir avec eux comment on peut améliorer les choses en termes de relations avec les administrations françaises, avec l'État français, et en même temps comment on peut permettre d'éviter que ça puisse se reproduire et limiter au fur et à mesure du temps ces actes antireligieux.
Vous dites, vous entendez donc travailler avec les représentants des différents cultes. Vous vous apprêtez à les rencontrer?
On les rencontrera tous. Là, pour le moment, on a rencontré les bouddhistes de France. C'était les premiers que nous avons rencontrés. Parce qu'on voit aussi les différents représentants des ministères de l'Intérieur, ministère de la Justice, de la LICRA, des chercheurs, des sociologues, des responsables politiques. Et pour nous, il est important de voir plutôt les cultes à la fin, étant donné que ce sont les plus concernés, et de voir d'abord en amont tout ce qui était représentativité de l'État, agence nationale, association, chercheurs qui peuvent nous accompagner aussi dans cette démarche-là, puis avec les cultes, voir avec eux comment ils subissent la chose, comment ils essaient d'améliorer leur relation avec l'extérieur, et comment on peut limiter avec leurs propositions et leurs préconisations les futurs actes antireligieux. Donc on est vraiment dans une démarche construite, et à partir de tous ces échanges et de toutes ces auditions, dans notre rapport, on verra quelles sont les préconisations qu'on va faire. Aujourd'hui, on n'en fait pas encore, on attend vraiment la fin de ce rapport pour pouvoir les faire, et on ne s'interdira rien du tout par rapport à ça. Et d'ailleurs, le président de la République nous demande de ne pas s'interdire de faire des préconisations et des propositions, même si elles sont juridiques, au-delà du réglementaire.
Ces actes antireligieux, toutes religions confondues, vous l'avez souligné, cela illustre une montée des tensions dans le pays aujourd'hui?
Je dirais pas que ça illustre une montée des tensions, mais on le voit, personne, malheureusement, est mis de côté, qu'on soit un religieux, un responsable politique, un représentant de l'État, un soignant, un journaliste. Malheureusement, il y a une espèce de montée de la haine de personnes qui ne sont plus dans un système de communauté nationale et d'appartenance collective, qui sont dans l'individualisme permanent et qui parfois commettent des actes plus que répréhensibles, parce que même moralement, quand on en arrive là, c'est un problème de dignité humaine, on remet tout en question. Pourquoi attaquer aujourd'hui quelqu'un qui fait une procession ou qui va prier, alors que la loi 1905, justement, lui permet d'avoir cette liberté-là et de pouvoir être totalement libre dans sa foi et dans sa conscience. Donc nous, on veut protéger cette loi 1905 qui protège les cultes autant qu'elle protège les personnes qui ne sont pas croyantes. Et on est dans une démarche de remettre de la fraternité dans notre rapport.
Et les candidats à la présidentielle ont un rôle important à jouer, notamment pour ne pas attiser les haines.
Plus qu'un rôle à jouer, malheureusement, dans cette campagne qui arrive, on voit beaucoup trop de candidats, à mon goût, parler surtout pour un camp ou une partie de la population, alors qu'ils devraient rassembler un pays et faire en sorte qu'on ait une dynamique positive. Et quand on est dans une dynamique de fracturation et de parler qu'à un seul camp, on va diviser notre pays et ce n'est pas bon pour notre avenir commun, et notre société se met en danger en faisant cela.
L'exemple à suivre, c'est peut-être justement la solidarité entre les différents cultes face à ces actes.
Oui, on l'a vu en plus pendant la crise sanitaire, tous les cultes ont travaillé ensemble main dans la main, de façon fraternelle, pour répondre à leurs fidèles, répondre aux besoins de chacun qui était parfois enfermé chez soi sans pouvoir voir qui que ce soit. Même les cultes, entre guillemets, ont dû trouver des solutions, j'allais dire 3.0, voir un prêtre derrière sa tablette. En France, c'était quand même assez rare. Pouvoir écouter une prêche quand on a besoin d'être... de reprendre un peu de spiritualité dans un moment compliqué. Heureusement qu'Internet était là, et les cultes ont joué ce rôle-là aussi. Ils ont accompagné aussi la démarche du gouvernement pour répondre aux besoins sur la crise sanitaire, pour limiter les risques. Donc oui, tout le monde a joué son rôle. Et il est important aussi pour nous qu'on travaille main dans la main, étant donné qu'ils sont les premiers concernés, et que nous, notre objectif, c'est vraiment de protéger tout le monde, qu'on soit religieux ou non religieux, et de pouvoir protéger les lieux de spiritualité aujourd'hui.
Ludovic Mendès, député La République en marche au micro de François-Xavier de Calonne. Le Conseil français du culte musulman déplore des débats électoraux trop centrés sur l'islam. Dans une tribune publiée dans Le Monde, Mohamed Moussaoui, le président du CFCM, évoque un racisme latent. Il appelle les candidats à l'élection présidentielle à éviter les amalgames préjudiciables à l'unité nationale. Une grève très suivie dans l'éducation nationale. Enseignants et personnels de l'éducation dénoncent la gestion de la crise sanitaire à l'école. Près de 38,5% des enseignants étaient en grève ce jeudi, selon le ministère de l'Éducation. Le SNU-IPP, premier syndicat du primaire, a annoncé pour sa part 75% de grévistes. Assignée à résidence, la chercheuse franco-iranienne Fariba Adelka a été de nouveau incarcérée à Téhéran. Elle avait été condamnée en mai 2020 à 5 ans de prison pour atteinte à la sécurité nationale. La France condamne la décision, une décision, affirme le Quai d'Orsay, qui ne peut qu'avoir des conséquences négatives sur la relation entre la France et l'Iran et réduire la confiance entre les deux pays. En Allemagne, un haut gradé du renseignement syrien condamné à la perpétuité, Anwar Raslan, a été reconnu coupable de la mort de prisonniers et de la torture de milliers d'autres dans un centre de détention secret du pouvoir syrien. Il s'agit du premier procès au monde lié aux exactions attribuées au régime de Bachar el-Assad. Au Liban, des chauffeurs routiers ont manifesté ce jeudi une journée de colère lancée par le syndicat des transporteurs routiers pour dénoncer la situation économique et sociale. En Tunisie, le gouvernement a interdit les rassemblements pour faire face à la reprise de l'épidémie de Covid-19, mais pour le parti Ennahda, cette interdiction a des motifs politiques et non sanitaires. Aussi, le parti islamiste a-t-il décidé de maintenir une manifestation organisée ce vendredi à Tunis. Au Soudan, les forces de sécurité ont de nouveau tiré des grenades lacrymogènes sur des manifestants hostiles au pouvoir, des violences qui interviennent alors qu'un dialogue a été lancé sous l'égide de l'ONU. Enfin, Laurence d'Arabie, c'est le titre du spectacle présenté au théâtre 13e art à partir du jeudi 13 janvier jusqu'au dimanche 27 février. Une pièce qui nous entraîne dans les coulisses du découpage du Moyen-Orient au début du 20e siècle. Sur scène, 8 comédiens, 2 musiciens et une chanteuse qui interprètent des dizaines de personnages. Un spectacle créé par Éric Bouvron qui a reçu le Molière du meilleur spectacle pour l'adaptation du roman de Joseph Kessel, Les Cavaliers. On écoute Éric Bouvron.
Et après avoir monté Les Cavaliers de Joseph Kessel, dont j'étais assez naïf d'adapter cette œuvre de 700 pages, parce que si j'étais pas naïf sur une adaptation, je pense que je n'aurais jamais tenté, parce que c'était tellement un long chemin. Je me suis dit, waouh, ça me faisait penser à Laurence d'Arabie. Et c'est comme ça le petit grain et s'est instauré dans mon cerveau. Et je me suis dit, non, c'est impossible, tu peux pas monter Laurence sur scène. En plus, le film a marqué tellement des esprits et c'est juste une petite idée, comment on peut dire, un défi au départ. Et je laissais tomber. Mais le petit grain continue à pousser. Et à force de plonger dans cette époque du Première Guerre mondiale avec l'Empire ottoman, abordant Zorba le grec, je me suis tombé sur, disons, ce petit grain poussé parce que je trouvais cette époque tellement fascinante. Et on connaissait rien de vraiment de l'Empire ottoman, les Arabes et les Anglais, les Français pendant la guerre. Seulement un film romanesque autour d'un personnage. Et donc, je me suis mise dans la recherche, je fais quelques lectures, disons pas les lectures, j'ai lu un peu, je me suis renseigné. Et après, avec Elisabeth, ma femme, on est même parti en Jordanie pour comprendre qu'est-ce que Laurence d'Arabie, c'était pour les Arabes là-bas. Et ce qui m'a frappé, c'est que qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un jeune homme d'à peine 28 ans, qui devient un héros pour son pays, quand il n'a pas demandé, un prophète même pour d'autres pour lesquels il se bat, pour la révolte arabe, parce qu'il croyait dans l'indépendance des Arabes, et qu'il apprend plus tard que tout est basé sur des mensonges. Et je me dis, voilà un sujet intéressant qui me faisait travailler la pensée. Et de là, doucement, est née l'idée de raconter cette épopée scénique. Et voilà, c'est comme ça, c'est parti.
Alors, Laurence d'Arabie a gagné la confiance des Arabes qui étaient persuadés que les Britanniques soutenaient leur projet d'une nation arabe indépendante. Mais Laurence et ses amis arabes seront finalement trahis par la Grande-Bretagne et la France avec les accords de Sykes-Picot. Il a eu très tôt le sentiment d'être manipulé.
Ce qui m'intéressait justement, c'est cette trahison. C'est cette trahison, comment... à quel point c'était les intérêts pour les Anglais et les Français qui étaient primordiaux au détriment des Arabes. Et Laurence, lui, il a su, et on raconte ça dans la pièce, il a appris avant que Faisal et les Arabes le sachent, et après il doit retourner à Faisal, et est-ce qu'il dit la vérité ou est-ce qu'il trouve une solution? Et c'était ça aussi qui fait partie de l'histoire. Comment il essaie de garder le secret et en même temps essayer de coller les morceaux pour que ce n'est pas un désastre.
Alors vous montrez sur scène la transformation de ce jeune colonel en arabe, il change de vêtements, il parle arabe. D'un point de vue théâtral, ça a été intéressant pour vous de montrer cette transformation à travers quelques éléments de décor, quelques costumes?
Oui, pour moi, ceux qui en suivent, le côté dramaturgique, c'est justement le cheminement de ce jeune homme. Son passage entre le vouloir de se battre pour une cause dans laquelle il croit, et ensuite, quand il découvre le mensonge, comment il s'intègre parmi ces peuples pour qu'ils gagnent leur confiance, et comment cette même confiance qu'il gagne d'eux, qu'il va les trahir derrière. Parce que il est obligé quelque part. Et comment il essaie de sauver le maximum de casse par des choix assez radicaux.
Alors, vous êtes chorégraphe à l'origine, 8 comédiens interprètent au total 60 personnages. Votre spectacle comprend de la musique. En quoi votre formation de chorégraphe vous a-t-elle influencé pour cette mise en scène?
Pour moi, l'art suprême, c'est la musique. Et quand j'ai 3 musiciens, disons 2 musiciens et une chanteuse, c'est eux qui portent tout le voyage quelque part sur scène. On n'utilise pas des gros décors, justement le contraire. On apporte des ambiances, des univers à travers le son qui permet que les comédiens se plongent dans le désert, au Caire, à Londres, dans un train, et on embarque les spectateurs sur plusieurs paysages constamment. Grâce à ce travail marié entre le son, le bruitage, le chant, et évidemment la danse et le jeu. Et la chorégraphie, c'est que oui, je suis danseur d'origine aussi, parce que j'ai une formation en Afrique du Sud en tant que comédien, danseur. Et pour moi, l'esthétisme des choses, la beauté des choses, c'est assez important. Presque dans le spectacle, même si c'est une histoire de guerre et des garçons qui racontent une histoire de guerre, pour moi, il y a un côté très féminin, parce que c'est très chorégraphié, Et esthétiquement, c'est important pour moi la visibilité et aussi un très bon travail de lumière quand c'est dans une salle.
Le metteur en scène Éric Bouvron, sa pièce Laurence d'Arabie se joue au théâtre 13e art du 13 janvier au 27 février et c'est à Paris. Cette édition est terminée. Merci d'être fidèle à Radio Orient.